France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Démonter les totalitarismes, c'est ce samedi dans Plan large avec Raoul Peck et Saïd Roustaï et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. En ces temps d'inversion générale des valeurs, de torsion éhontée du langage pour créer des contre-vérités et autres faits alternatifs, et ce des deux côtés de l'Atlantique, voire dans notre pays même, il n'est pas inutile de revenir à ceux qui, les premiers, ont pensé cette nouvelle forme de domination politique née au XXe siècle et toujours présente aujourd'hui, même si elle avance masquée, le totalitarisme. Parmi eux, l'écrivain britannique George Orwell en a donné la description chimiquement pure dans son ultime roman 1984, parce que ce qui était vu alors à sa sortie en 1949 comme un roman d'anticipation décrit avec une étonnante prescience le moment que nous vivons aujourd'hui, le réalisateur haïtien Raoul Peck n'a pas hésité une seconde quand un studio hollywoodien, l'Universal Pictures, l'a approché en lui proposant les droits exclusifs de l'ensemble de l'œuvre de George Orwell acquise auprès de ses héritiers. Il s'en est emparé, comme il l'avait fait avec celle de James Baldwin en 2017 avec « I am not your Negro », n'utilisant en voix off que les textes d'Orwell, de ses récits autobiographiques à sa recension de la guerre d'Espagne dans Hommage à la Catalogne, en passant par La ferme des animaux et donc 1984, autant de textes qui dialoguent avec toutes sortes d'images, d'archives, de fictions, dont plusieurs adaptations du roman dystopique, et d'actualités, pas avare évidemment, en glaçant moments totalitaires. En résulte ce documentaire, Orwell 2 plus 2 égale 5, dont nous nous entretiendrons dans un instant avec Raoul Peck. Cette semaine est aussi sorti le nouveau film de l'Iranien Saïd Roustaï, le réalisateur de La loi de Téhéran et de Leïla et ses frères. Alors que le pays pleure encore les dizaines de milliers de morts de la répression brutale par le régime islamiste des manifestations contestataires qui l'ont ébranlé ces derniers mois, alors que le pays est à nouveau bombardé, nous verrons avec le cinéaste comment il a pu, en respectant en apparence les règles qui gouvernent le cinéma national, ausculter sans phare le mortifère patriarcat qui tente de plus en plus en vain de gouverner le corps et les âmes des iraniennes. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous narrera, lui, les amours impossibles d'un couple illégitime dans le Japon de l'immédiate après-guerre, à l'occasion de l'édition en Blu-ray du chef-d'œuvre de Mikio Naruse, Nuage flottant. Mais pour l'heure, on commence par une petite définition de ce dont nous parlons.
Une société devient totalitaire quand sa structure devient manifestement artificielle. C'est-à-dire lorsque sa classe dirigeante a perdu sa fonction, mais réussit à s'accrocher au pouvoir par la force ou la fraude. Mais pour être corrompu par le totalitarisme, il n'est pas nécessaire de vivre dans un pays totalitaire.
Tonight I want to take a few minutes to discuss a grave threat to peace. The threat comes from Iraq. It arises directly from the Iraqi regime's own actions, its history of aggression, and its drive toward an arsenal of terror.
We are at war with the people of Eurasia, the vile and ruthless aggressors who have committed countless atrocities and who are guilty of every bestial crime a human being can commit.
Bonjour, Raoul Peck.
Bonjour.
Orwell est venu à vous d'une certaine façon, puisque c'est une proposition qu'on vous a faite. Est-ce que malgré tout, Orwell est quelqu'un qui a compté dans votre formation intellectuelle et politique ?
Je dirais plutôt, Orwell a compté dans ma culture générale. J'ai lu Orwell, j'ai lu La ferme des animaux, et 1984 en partie à l'époque à l'école, puisque j'ai fait une grande partie de mes classes secondaires en France. Donc voilà, pas plus que la plupart du commun des mortels. Orwell, c'est un nom qu'on connaît, qu'on reconnaît, son nom est devenu un adjectif. On l'utilise à toutes les sauces, parfois de manière totalement opposée à ce qu'il représente. Donc oui, pour moi, le travail sur ce film m'a permis de retourner à la racine même de l'œuvre de cet immense écrivain.
Qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, et en particulier en vous plongeant dans cette œuvre et dans cette vie aussi?
Alors, il y a un certain nombre de choses, mais je pense que ce qui a été le plus important pour moi, puisque c'est souvent la condition même pour moi d'accepter de faire un film, c'est de trouver une proximité avec cet auteur. Et c'est vrai qu'au début, je pouvais avoir la crainte que ce soit un auteur apparemment éloigné de mes propres préoccupations politiques, entre autres. Or, je m'aperçois que, en fait, il est très proche de beaucoup de choses que j'ai moi-même défendues. Il est tout aussi proche d'une certaine vision plus universelle de ce qui se passe autour de nous. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui soit éclatée, c'est-à-dire j'ai grandi en apprenant l'histoire de mon pays, j'ai grandi en apprenant l'histoire des États-Unis, en apprenant l'histoire de la France, en apprenant l'histoire de l'Allemagne, en apprenant l'histoire du Congo. Donc ce genre d'éclairage, j'ai été étonné de le retrouver chez Orwell, qui lui aussi a fait un voyage vers l'autre. D'abord, il est né en Inde. C'est pour ça que cette photo de sa nounou noire en Inde est particulièrement déterminante dans la compréhension de qui il est. Ensuite, il repart en Birmanie comme soldat colonial à 19 ans, ce qui va être un immense choc pour lui de cette contrée qu'il pensait retrouver puisqu'il est né là, son père a fait une grande partie de sa carrière en Inde. Et pour lui, c'est retrouver son enfance quelque part. C'est échapper à cette grisaille londonienne ou anglaise et rentrer quelque part dans la vraie vie. La vraie vie, pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus large que la petite île anglaise, comme il dit. Et là, je retrouve quelqu'un qui est aussi proche d'un Baldwin, d'un Sven Lindqvist ou d'un Ernest Cole, quelqu'un qui a voyagé, qui a connu l'autre, qui a connu l'altérité et qui sait un peu plus de quoi il parle et qui ne s'est pas contenté de cette espèce d'hégémonie eurocentrique que le centre du monde, c'est nous.
Vous citez James Baldwin et on avait parlé ensemble de « I am not your Negro ». C'est un documentaire où vous aviez inventé une forme. Vous aviez déjà fait du documentaire avant sur Lumumba notamment. Mais là, vous avez trouvé une forme qui consiste à ne pas faire parler un spécialiste, comme vous venez de nous le raconter, quelqu'un qui nous dirait qui est George Orwell, mais de laisser Orwell parler, de trouver une façon de mettre en image une pensée et une langue. Alors, je serais très curieux de savoir comment est-ce que vous procédez très concrètement. J'imagine que vous partez du texte. À partir de là, vous faites un collage. Et comment le film se construit à partir de ça?
Alors, c'est un processus que j'ai eu, justement, j'ai mis 10 ans à mettre en place avec I Am Not Your Negro. Maintenant, je sais pertinemment comment le faire. Et puis d'abord, la première décision qu'on prend, c'est de dire, voilà, je ne fais pas une biographie. Je raconte l'histoire. Et cette histoire a un personnage. Et il se trouve que ce personnage, c'est l'écrivain, en l'occurrence Orwell. Et il s'agit pour moi d'essayer de trouver un moment dans sa vie qui soit dramatiquement utile pour raconter une histoire. Et là, c'est tout simplement les 2 dernières années de sa vie où il se retire sur l'île de Jura pour essayer de terminer son dernier roman, 1984, et qui est assez, en même temps, douloureux, mais en même temps, une période très particulière pour lui, loin de tout, et où il n'est pas sûr de terminer le roman, puisqu'il est régulièrement obligé d'aller au sanatorium, puisqu'il souffre de tuberculose, ou à l'hôpital. Et donc, c'est dans cette tension-là que je raconte l'ensemble de son histoire, et qui me permet aussi d'aller revisiter l'ensemble de son œuvre. Et concrètement, bien entendu, je suis obligé de relire une majorité d'œuvres que j'estime essentielles, centrales, Et de là, je tire les extraits qui m'intéressent, les extraits qui me permettent de raconter une histoire dramatique, c'est-à-dire avec une structure dramatique. Et ce processus prend pas mal de temps, mais il constitue la base même ensuite du montage, qui est un second processus où, que je commence d'ailleurs très tôt avec ma monteuse et mon équipe, en parallèle de la recherche d'archives. Et petit à petit, couche après couche, on construit quelque chose qui est de l'ordre d'un récit dramatique, comme je l'aurais fait pour un film de fiction.
Mais est-ce que dès le départ, en lisant, en choisissant un texte, vous avez déjà les images, des images en tête, parce que vous connaissez très bien les fonds d'archives un peu partout dans le monde, et tout d'un coup, une lecture va vous dire « Ah ben oui, je pense à ça », qui n'est peut-être pas évident à rapprocher, mais qui tout d'un coup est une image qui est comme surgie de votre mémoire.
Oui. Alors, il y a des images qui sont plus difficiles à trouver, parce que soit on n'y pense pas, soit on ne sait pas qu'elles existent. Et qui prennent beaucoup plus de temps, qui arrivent en mi-montage ou fin de montage. Et puis, il y a des images qui arrivent tout de suite. Certaines d'entre elles sont suggérées de manière immédiate par Orwell lui-même. Quand, au détour du premier chapitre de 1984, le personnage de Winston décrit comment il a été, en écrivant son journal, il décrit comment il a été la veille au cinéma. Et il a assisté à un film sur des réfugiés en mer Méditerranée. Et il mentionne les gens du parti qui étaient dans la salle riaient à pleine gorge. Et ben, quand on a ça, c'est pas difficile d'aller trouver les images. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles s'adaptent totalement avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, ça a été une séquence à monter qui était particulièrement dramatique, parce que c'est comme si on faisait un retour en arrière et en même temps ça parle du présent. Ce qui est la raison de ce film, c'est montrer comment on est en plein dans Orwell aujourd'hui. Mais là, qu'il n'y ait absolument pas de décalage dans le temps, il a écrit ces mots il y a un peu plus de 70 ans et ça décrit exactement ce qu'on vit au quotidien sur la mer Méditerranée actuellement.
Le danger, j'imagine, c'est de vous laisser dévorer par les images de l'actualité, parce que, comme vous le dites, on est dans un moment particulièrement orwellien, littéralement, pour le coup, entre les États-Unis, la Russie, la France, enfin l'Europe, le monde entier. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit « Oula, attention, pas trop de Trump, je vais me faire bouffer mon film ».
Oui, absolument. Ça, c'est valable à chaque film, où on doit toujours faire attention de ne pas se laisser emporter par le matériau lui-même et de rester sur l'histoire qu'on s'est donnée comme centre. Et en l'occurrence, il s'agit aussi de ne pas dater un film. Parce que c'est vrai que l'actualité est absolument généreuse dans des morceaux d'anthologie, dans des morceaux de réalité qui sont absurdes et qui sont orwelliennes, justement. Il suffit de se poster à la sortie de la Maison Blanche et on en a à l'appel. Or, c'est pas ça l'idée, c'est quand même de faire un film qui va durer. Un film qu'on peut revoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et qui est la même force. Donc, il faut savoir doser les choses et, comme on dit dans notre métier, apprendre à tuer ses bébés, to kill your babies. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en soi intéressantes, formidables, époustouflantes, mais dans l'arc général du film, peuvent être moins intéressantes parce qu'ils amènent le film dans un créneau qui n'est pas le créneau où on veut aller. Et il ne fallait absolument pas qu'il y ait un excès de Donald Trump dans le film. Parce qu'au final, politiquement, ce n'est pas Trump le problème. Trump, c'est juste la dernière apparition d'un tel prototype et dans un pays très puissant. Et donc, la catastrophe qu'il peut amener est d'autant plus inquiétante. Mais Donald Trump, c'est le produit d'une longue dégradation des 40-50 dernières années. Trump n'arrive pas comme ça dans le paysage. On a eu beaucoup d'autres. D'ailleurs, on voit bien Milei en Argentine, l'ancien Berlusconi en Italie. En France, je nommerai pas de nom. Mais voilà, on est dans une ère où un footballeur peut devenir président, un acteur peut faire une campagne électorale. Tout est décalé. Et donc, un type comme Trump, qui il y a 50 ans n'aurait... Il ne lui serait même jamais venu à l'idée qu'il pouvait être président. Et pourtant, il a mené sa campagne pendant 40 ans au moins, jusqu'à ce qu'il arrive à gagner. Et il gagne par les mêmes instruments populistes que d'autres avant lui ont utilisés. Sauf que les institutions aujourd'hui sont beaucoup plus faibles. Et la résistance, on a baissé nos armes. Et quand le monstre était dans le palais, il était trop tard.
On a le sentiment aussi, par l'utilisation des images, parce qu'il n'y a évidemment pas que l'actualité, il y a des images d'archives, il y a des images de fiction de toutes sortes, y compris des adaptations de 1984 ou de la vie même d'Orwell à la fin de sa vie sur l'île de Jura, c'est qu'il y a une pensée dialectique du montage. C'est-à-dire que quand on met une image d'un bombardement de Berlin à côté de celui de Mariupol, qu'on met des moments de réfugiés de la guerre d'Espagne avec ceux de la guerre de Gaza, ça permet aussi de penser... au-delà même du texte que vous adaptez.
Oui, c'est l'effet de juxtaposition d'événements à travers le monde, de mise en abîme de certains événements, de certains drames. Et c'est au final de reconnecter ces histoires qu'on nous balance au quotidien, apparemment sans lien les unes avec les autres. Or, c'est le contraire, et je pense que le spectateur réagit bien par rapport à ça, parce que brusquement, il arrive à avoir des repères, il arrive à comprendre la grande histoire, il arrive à comprendre que ce ne sont pas des événements séparés, et qu'il y a une certaine logique, il y a une certaine logique du pouvoir, il y a une certaine logique de l'autoritarisme, il y a un certain zeitgeist. On est dans une époque où, un peu partout, on ment au citoyen. On lui fait croire que ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il voit. On essaie de lui imposer 2 plus 2 égale 5. Et c'est compliqué de résister, parce que la méthode est imparable. Orwell l'explique très bien comment, en détruisant le langage, en utilisant les mots pour leur contraire, en assénant le contraire de ce qu'on fait, voilà, je veux la paix et on fait la guerre, avec le côté massif de ces interventions, le citoyen peut douter, d'autant plus qu'il n'a pas forcément des repères. Les médias, parfois, sont eux aussi submergés par cette énormité de data, d'informations, qui parfois sont de fausses informations, et qui parfois ont beaucoup de mal à hiérarchiser ces informations. Qu'il y a eu un accident de voiture au coin de la route, parfois mérite 10 minutes au journal télévisé, alors que la guerre en Ukraine en a à peine 30 secondes. À un moment donné, il faut questionner ces choix qui sont faits. Et c'est pour ça que Bourdieu en parle très bien également dans le film. Il dit que voilà, les journalistes eux-mêmes sont pris dans un système qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne maîtrisent plus. Et ça a à voir aussi avec l'économie, le fait que la plupart des médias importants sont entre les mains d'une petite minorité et qui très souvent interviennent dans le formatage, dans le contenu de ce que ces médias publient. Donc on est dans de nombreuses situations qui s'additionnent et parfois il est compliqué pour le citoyen normal de s'y retrouver. Donc Orwell nous aide parce que quelque part il nous présente la boîte à outils de ces systèmes et comment ils fonctionnent et comment ils nous usent, comment ils nous pressent tous les jours à ne pas croire nos yeux et à rentrer dans une sorte de propagande. Et donc ça, c'était important pour nous de garder cette ligne et je pense que c'est l'impact le plus important de ce film par rapport au public.
Pour revenir à votre façon d'utiliser les images, est-ce que c'est pour donner des repères justement au public, pour ne pas le leurrer sur les images que vous lui proposez, que chaque image est identifiée, chaque image est sourcée?
Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, quand j'utilise des extraits de films, de collègues ou des films historiques ou des films qui ont marqué ma propre mon propre parcours, je trouve que c'est normal de les signaler. Et j'espère aussi que les gens iront regarder ces films à nouveau. Parce qu'ils font partie de notre patrimoine, ils font partie de notre mémoire universelle. Donc, ils font partie de l'ensemble du récit. C'est comme quand on met parfois dans des livres des notes de bas de page. Et ça vous renvoie à d'autres recherches ou d'autres lectures éventuelles. Et ça, pour moi, ça doit faire partie du travail. Et ça, c'est une question aussi de transparence. Qu'à tout moment, le spectateur sait où il est.
Mais ça permet aussi, ce qu'on voyait déjà dans I Am Not Your Negro, de faire une sorte d'histoire des représentations. Il y a donc quatre versions que vous utilisez de 1984 qui racontent leur époque, l'époque à laquelle elles ont été tournées en même temps. Donc c'était aussi important de montrer ça.
Oui, ça a aussi ce caractère-là, de montrer l'ensemble de nos mémoires. Et ça dit aussi, quelque part, comment chaque histoire est racontée différemment à différentes époques, parfois avec différents moyens. Et comment, quelque part, il transporte quelque chose qui peut être différent. D'ailleurs, nous avons découvert avec surprise que dans une même version de 1984, que différents pays avaient adopté différentes fins. Dans certains pays, la fin était plus positive ou plus optimiste. Dans d'autres, elle était terriblement noire. Et donc, on voit bien que c'est parfois des considérations commerciales qui décident de l'une ou l'autre version et comment les sociétés respectives pouvaient ou auraient pu réagir. Donc, toutes ces découvertes sont également, ça fait partie des petites choses que nous apprenons en progressant.
Le film se termine par une phrase, je ne suis pas sûr qu'elle soit d'Orwell, elle est peut-être de vous. Tout ce qui compte a déjà été écrit. On pourrait dire tout ce qui compte a déjà été filmé aussi. Et pourtant, il faut remettre ces questions à l'ouvrage. André Gide disait « Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer ».
C'est exactement mon ressenti. Et en effet, ce dernier carton, c'est moi qui l'ai écrit, comme le premier carton du film. Mais ce n'est pas le premier film où je fais mention de cette pensée. L'un des films précédents, « Exterminer toutes ces brutes », en fait, c'est une phrase également de Sven Lindqvist, où il dit que tout a été dit, tout a été écrit. Le problème, c'est que nous ne voulons pas en tenir compte. Et c'est vrai, pour un créateur, pour un artiste, on a l'impression que notre travail des 45 dernières années, en ce qui me concerne, pas qu'il a été inutile, mais on se rend compte que, comme Orwell, qui nous a avertis dès 1947 de ce qui venait vers nous, on n'a pas écouté. De la même manière, on n'a pas réagi par rapport à la montée du nazisme dans les années 30 en Europe. On a cru que voilà, c'est un clown, un plaisantin qui dit beaucoup de choses, mais qui ne le fera pas à la fin. Comme Trump, pareil, tout ce qu'il raconte, en effet, il le fait à un moment donné. Et donc, les sociétés ont cette bizarre habitude de ne pas croire les alarmes, de ne pas croire les lanceurs d'alerte, de ne pas croire les avertissements. Et nous aussi, aujourd'hui, quand je vois le travail de beaucoup de mes collègues, Ken Loach, par exemple, que nous citons dans le film, ou d'autres, toute la génération de collectifs anglais qui ont fait des films sur le monde ouvrier, dans les années qui ont suivi la guerre en Angleterre. Tout ça, pour moi, c'est faire en sorte que cette mémoire soit partagée et continue à vivre. De la même manière, j'espère que mes films pourront continuer à contribuer à cette mémoire. Et oui, c'est un triste constat, mais quel choix avons-nous que de continuer ? On ne peut pas être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire au bout d'un moment, si nos populations ne s'accaparent pas de ces alertes, eh bien, on va malheureusement dans le gouffre de l'histoire. Malheureusement, cette histoire se répète encore et encore.
Take this for granted. Will your lies only
Et oui, le tube de Rhythmics, Sex Crime, c'était sorti en 1984, en 1984, pour accompagner la dernière adaptation en date du roman d'Orwell par Michael Radford. Ils en avaient même signé la bande originale. Orwell 2+2=5 de Raoul Peck, c'est à voir sur grand écran depuis mercredi, et c'est un film soutenu par France Culture. Et puis 1984, c'est aussi une fiction en 10 épisodes à podcaster sur franceculture.fr ou l'application de Radio France. Vous écoutez précisément France Culture et Plan Large. Jeudi soir au César, il a beaucoup été question d'Iran, avec un beau discours en hommage aux victimes de la répression par l'actrice désormais installée pour de bon en France, Golshifteh Farahani, qui aurait sans doute bien aimé remettre dans la foulée une statuette au cinéaste Jafar Panahi, reparti bredouille de la cérémonie en attendant celle des Oscars. Il a tout de même, rappelons-le, reçu la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, et signe de la vitalité toujours inentamée du cinéma dans le pays, malgré toutes les tensions et répressions. Il y avait cette année-là à Cannes un autre film iranien en compétition, Woman and Child, signé Saïd Roustaï, le réalisateur de La Loi de Téhéran et de Leïla et ses frères. Un film qui était venu précéder d'une polémique, puisque dès l'annonce de sa sélection en compétition cannoise, début mai, une lettre ouverte signée par des réalisateurs indépendants iraniens, clandestins ou en exil, avait dénoncé, avant même de l'avoir vu, la compromission du cinéaste avec le régime, puisqu'il en avait accepté les codes de censure en faisant notamment porter le hijab à ses personnages féminins en extérieur comme en intérieur, ce qui ne correspond plus, on le sait, dans les grandes villes en tout cas, à la réalité depuis le mouvement Femme, Vie, Liberté. C'était oublié que l'auteur de Leïla et ses frères s'était vu, à cause de ce dernier film, d'ailleurs interdit en Iran, condamné à 6 mois de prison et 5 ans d'interdiction de tournage, peine depuis suspendue, et que ce Woman and Child, si l'on poursuit le geste d'une dissection de la société iranienne sous le prisme de la famille, va encore plus loin dans son attaque frontale du mortifère patriarcat iranien dans un pays dépeint comme une vaste prison corrompue jusqu'à l'os, où la rébellion se paye parfois par la mort et où tout est fait pour culpabiliser les femmes. Et pourtant, au-delà du tragique destin très mélodramatique de son héroïne, veuve et mère célibataire en proie à la violence ou à la lâcheté des hommes, et qui espère réussir avec son fils à rompre cette transmission de la domination, c'est bien la fabrique d'une nouvelle femme que montre Saïd Roustaï, qui ne serait plus ni fille, ni épouse, ni mère, mais elle-même. Nous avions rencontré le cinéaste iranien sur une terrasse cannoise, avant donc les bombardements israélo-américains de l'été dernier, et a fortiori celle débutée ce matin, et avant aussi la répression sanglante par le régime des manifestations de cet hiver.
سر 8 کیلومونه بریزیم؟
پول ما بیشتره.
حرف نزن آقا. وقت می‌کشی فرفرتون بخوابه.
بریزیم آقا بریزیم. سر 8 کیلومونه بریزیم. علیا، این فرفرتو نمی‌فروشی؟
نداداش یکی اون اول بعد از سودو قرض بخواد بدید.
روار روار خودی روار.
Bonjour Saïd Roustaï.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez déjà nous expliciter le titre de votre film, Woman and Child, femme et enfant? C'est moins l'histoire de la relation d'une femme et de son enfant qu'une certaine vision de la famille, si j'ai bien compris.
Femme et enfant, en fait, femme c'est Barinaz et enfant c'est le petit garçon, après ça devient l'autre petite fille et puis ensuite c'est le bébé en fait. La femme est avec un enfant à chaque moment du film. C'est une expression que les hommes utilisent et c'est pour dire que c'est assez patriarcal comme regard et en fait, mais je voulais changer l'utilisation de l'expression et pour moi, en fait, c'est vraiment femme et enfant, la femme et l'enfant, et ce n'est plus cette expression-là, je veux changer la signification.
Alors, est-ce que vous pourriez aussi nous parler du premier plan de votre film? On voit ce visage à la fois recouvert d'une crème blanche et de cellophane, et la caméra se recule, et on se rend compte que toutes les femmes dans le plan sont comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez voulu commencer votre film comme ça?
Voyez-vous, au départ, pour moi, c'était pour dire que Mahnaz faisait tout pour cet homme et qu'elle était prête de changer sa peau, de se rendre plus jeune, ou encore dire à ses enfants de partir, de les cacher. Et donc, c'est comme un destin pour elle qui, à un moment donné, va aboutir à ce drame autour de l'enfant. Et Mahnaz, en fait, va changer. Après, elle ne va plus être comme ça, elle va être indépendante.
Oui, parce que l'impression que j'ai eue, peut-être me démentirez-vous, c'est que vous montrez l'invention d'une nouvelle femme. Et que c'est finalement, c'est comme si elle était en fabrique, en potentiel, au début du film, et qu'on allait voir comment se créer cette nouvelle femme.
Oui, je suis d'accord. C'est comme si autour de toutes ces femmes qui se ressemblent, on va en choisir une et après on va rester avec elle et après on va voir comment elle va être évoluée tout au long de sa vie et comment elle va être en révolution dans sa vie.
Mais pour pouvoir se changer, elle va devoir traverser un grand nombre d'épreuves. Et on est là, il me semble, dans la forme même du mélodrame. Est-ce que c'est à ce genre-là aussi que vous avez voulu vous accrocher, en tout cas poursuivre ce genre-là?
Pour moi, je ne suis pas sûre de mélodrame, je ne sais même pas ce que c'est, mais je suis plus dans une forme de tragédie, je dirais. C'est-à-dire, c'est vraiment tragique comme situation. Parce que c'est une tragédie moderne, il n'y a pas de Dieu pour sauver qui que ce soit, il n'y a pas de miracle pour sauver les gens, mais l'individu doit choisir de changer sa vie, sinon sa vie ne va pas changer. Mahnaz, au lieu de choisir le deuil et la dépression, elle va se dire, je vais sauver les autres générations comme ma petite sœur, comme l'enfant, comme le bébé qui est né, pour une meilleure vie.
Changer les gens autour d'elle, c'est notamment changer les garçons. Ce que représente sans doute ce bébé qui vient de naître, c'est la possibilité de ne pas répéter ce modèle. Et pour son fils aîné, c'est déjà trop tard. Mais il y a une possibilité de changer les hommes dans ce pays.
Je ne sais pas si dans la société c'est vraiment comme ça, mais en tout cas, je vois que les fils qui sont éduqués par des femmes sont des meilleurs hommes.
Est-ce que vous parlez pour vous-même, Saïd Roustaï?
Oui, nous on était 5 frères et 2 sœurs et c'est les sœurs qui m'ont en fait élevé.
Alors je pense que vous n'avez pas vu les autres films de la compétition, Saïd Roustaï, vous n'avez pas eu le temps, mais c'est un motif frappant de cette année. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans les films, ce qui avant était vraiment un tabou dans le cinéma. Qu'est-ce que ça dit selon vous de l'état du monde dans lequel nous vivons ?
À vrai dire, moi j'aime beaucoup que la vie circule dans mes films. C'est inconscient. Ces enfants donnent de la vie en fait au film. Mais c'est pas en fait se dire non, je dois absolument avoir un enfant. C'est par rapport à l'idée du scénario, s'il y a besoin ou pas.
Le fils que vous décrivez dans le film est un personnage qui est très ambigu parce qu'il emporte l'adhésion du public tout de suite. C'est comme un petit Jean-Pierre Léo dans les 400 coups. Et en même temps, vous le montrez dépositaire de tout ce qui ne va pas dans ce pays. Comment est-ce que vous l'avez conçu, ce personnage ?
J'étais un peu comme ça, en fait, à son âge. J'étais très bonne à l'école, mais en fait, par contre, j'étais hyper turbulent. Mais je suis vivant, par contre.
Ce que vous décrivez aussi, c'est une société qui est corrompue, on pourrait dire jusqu'à l'os, de l'hôpital, jusqu'au sein même de la famille. Tout le temps est un échange de services contre de l'argent.
Je ne l'avais pas pensé comme ça. C'est particulier comme question. Donc c'est comme ça dans le film, vous le voyez comme ça.
Au sein même de la famille, on ne se rend pas des services, c'est toujours monnayé. Tout passe par de l'argent. Fais mes devoirs, je te donne de l'argent. Et puis celui qui doit faire les devoirs les fait faire par une autre personne, toujours contre de l'argent.
À vrai dire, les gens dans mon film, les gens ne sont pas tout à fait dans le droit chemin. Ils bifurquent. Par exemple, Hamid trafique les patients ou la grand-mère demande que quelqu'un d'autre fasse ses devoirs. Donc le fils donne de l'argent à la sœur. Il avait demandé plus d'argent à la grand-mère, mais il a demandé à la petite. C'est un des problèmes dans la société iranienne, parce qu'on est toujours dans les chemins de travers. On a l'impression qu'on va arriver au bon chemin, mais finalement, en fait, jamais. En général, dans mes films, la vie des gens sort de leur chemin habituel. Et quand je pense, en fait, d'un coup, ça me vient à l'idée pour vous l'expliquer comme ça, je pense que la vie des gens sortent de leur chemin naturel et il y a toujours une personne qui essaie en fait que tout le monde revienne sur le chemin qu'il faut en général, sur les rails.
Et
je pense que c'est parce que tout le monde doit prendre d'autres chemins qui ne sont pas les chemins directs finalement.
Ce qui est très frappant dans votre film Saïd Roustaï aussi, c'est que vous le filmez comme une vaste prison. Vos plans regorgent de grilles, de barreaux, de portes verrouillées. Est-ce que c'est comme ça que vous vouliez décrire l'Iran d'aujourd'hui ?
Non, quand on vit quelque part, oui, il y a sûrement beaucoup de problèmes. Je ne dirais pas qu'on est dans la mort ou dans la prison. Franchement, aujourd'hui, là, je suis ici et la seule chose que je veux, c'est de rentrer chez moi. Donc, ce n'est pas une prison pour moi. Mais si on voit autant de plans serrés, et parce que dans ce film et dans mon précédent film, j'avais toujours envie de montrer comment les gens sont proches, qui n'ont pas assez de place, donc leur secret n'est pas gardé, les plans sont serrés, il n'y a pas assez de place. Et donc, on est toujours dans le close-up de l'autre personne. On n'a pas assez de distance. Du coup, on connaît tout de l'autre. Et donc, c'est ça, la mise en scène. Et aussi, il y a quand même, il y a une forme dans les deux parties du film. Vous savez, il y a la première partie et une deuxième partie. Mais toutes ces portes sont vitrées dans ce film-là. Et notamment le vitre de milieu de l'appartement. Et même à l'hôpital, j'ai essayé d'avoir en fait un endroit où il y a beaucoup de vitres. Et c'est pour montrer la fragilité de la situation. De l'homme ou la femme iranien. Les gens ne connaissent rien de leur avenir, donc pour rien prévoir.
Il y a aussi ce motif récurrent de la toupie. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour vous ou c'est juste sa qualité même cinématographique très belle que vous vouliez exploiter ?
Le temps. C'est-à-dire,
quand ils sont en train de parier, par exemple, tant qu'ils tournent, ils ont le temps pour jouer.
Et quand Mahnaz est dans la chambre et fait tourner la toupie, en fait, c'est pour montrer comment le temps passe.
En tout cas, voilà, c'est le symbole du temps dans le film pour moi.
Et puis, il y a un plan magnifique dans votre film. C'est un échange de regards entre un homme et une petite fille, entre un fonctionnaire sévère mais intègre et une petite fille qui le regarde. C'est presque le centre pour moi de votre film. Comment est-ce que vous avez pensé cette séquence-là ?
Je ne sais pas si c'était un homme vraiment intègre, mais il était un peu fautif dans la perte de cet enfant. Et en fait, il n'a pas envie de rendre la situation de cette famille et ni la sienne encore pire que ça. Il n'a pas envie d'être pire que ce qu'il a été. Moi, je n'ai pas envie que mon personnage soit noir et blanc. C'est le gris qui m'intéresse. C'est impossible que quelqu'un soit parfait dans le monde. Hein.
Votre film, ça vous a été reproché, a été tourné au sein du système officiel du cinéma iranien, de ces codes de censure. Moi, j'ai le sentiment que vous les poussez presque jusqu'au point de rupture, ces codes-là, et que manifestement, vous voulez faire bouger les choses de l'intérieur en testant les limites du système.
Merci beaucoup d'avoir dit ça. C'est vraiment ça. d'être aux côtés de son peuple, en fait, à des différentes formes. Il y a des gens qui ne travaillent pas, et donc ils seront aux côtés du peuple, et d'autres doivent travailler. Moi, je fais des films en Iran. Je ne fais pas de film pour le voile obligatoire. Je fais le film pour mon peuple, parce que j'ai envie que mon peuple voit du film, du bon film dans les salles de cinéma. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on ne voit pas des bons films dans les salles de cinéma. Si moi, ou les gens comme moi, on ne travaille pas, en fait, ce cinéma va aller de plus en plus vers le bas. On doit chacun pouvoir travailler à notre manière. Il y a des gens qui font des films un petit peu beaucoup plus indépendant, plus petit. Personne n'arrive à voir votre caméra. Vous êtes une petite équipe, petite caméra. Vous n'avez pas des grands stars. Vous pouvez le faire quelque part en cachette. Mais quand vous voulez aller au tribunal, à l'école, à l'hôpital, dans les rues, dans la voiture, tout ça, c'est compliqué. Je suis obligée, on est obligé d'avoir des autorisations. Et je suis cinéaste et donc j'ai beaucoup d'obstacles et en même temps j'essaie autant que je peux, autant que j'ai de l'énergie de dépasser ces obstacles. Et celui qui me met de l'obstacle, c'est lui qu'on doit montrer du doigt, pas moi qui mets toute ma vie pour faire un film.
Merci beaucoup, Saïd Rostaï.
Merci.
Woman and Child est sorti lui aussi ce mercredi et c'est encore un film soutenu par France Culture. Merci à Azal Bagheri d'avoir traduit les propos de Saïd Roustaï. On peut, sur la Cinéthèque, la Cinémathèque en ligne des cinéastes, retrouver la liste des 50 films préférés du cinéaste, qui vont du Voleur de bicyclette au Sacrifice de Tarkovsky en passant par Le Parrain et Kramer contre Kramer, des choix qui de fait éclairent son cinéma. Quant à la musique qu'on entend, elle n'est pas dans son film. C'était un grand moment du festival Printemps du Jazz Persan 2020.
2024, avec autour du pianiste Arshid Azarine et de ses musiciens, les chanteurs et chanteuses Habib Mefta, Golsa et Delaram Kafajzadeh, des grandes figures de la résistance culturelle à la dictature islamiste. Un concert avec d'autres artistes aura lieu le dimanche 15 mars au New Morning à Paris, une soirée pour l'Iran, en solidarité avec le peuple dans sa lutte pour la démocratie et en hommage aux victimes tombées sous les balles du régime iranien. Hommage encore à Frédéric Wiseman, si celui très beau qu'a rendu pendant la cérémonie des Césars la documentariste Alice Diop à son inspirateur, disparu le 16 février dernier, vous a donné envie de voir et revoir ses films à Wiseman, les cinémas parisiens Le Reflet Médicis et Le Luxor, et à partir de mercredi prochain, L'Arlequin propose tous les trois une vaste rétrospective de son œuvre en copie, la plupart du temps restaurée. À ne pas rater, évidemment, à ne pas rater non plus en salle la deuxième partie du cycle consacrée aux odyssées cinématographiques du cinéaste allemand Werner Herzog sous le titre Le Chaos. On y retrouve nombre de ses chefs-d'œuvre, Nosferatu, Les Nains aussi ont commencé petit, L'énigme de Kaspar Hauser, La balade de Bruno, Écho d'un sombre empire, Leçon de ténèbres et Ennemis intimes. En salle toujours, Chaos encore, mais dans la sphère familiale, ressort en copie restaurée une comédie grinçante et des plus subversives, surtout quand on sait qu'elle est sortie en 1969, un an après l'écrasement par les chars soviétiques du printemps de Prague. Ça s'appelle La famille Homolka, du tchèque Jaroslav Papouchek, scénariste des plus connus Miloš Forman et Ivan Passer. Un véritable chef-d'œuvre, avez-vous écrit dans Le Monde, Mathieu Macheret?
Ben oui, c'est un film tout à fait étonnant que je connaissais pas et qui voilà qui nous parle du moment où la nouvelle vague tchèque s'estompe. On est après, en effet, l'écrasement du mouvement du printemps de Prague, mais pas encore à celui où la normalisation s'enclenche. Donc on a affaire à une famille, ça se passe en deux temps. D'abord un début complètement idyllique dans une forêt resplendissante, et puis ensuite la vie à l'intérieur de l'appartement qui est infernale. Il y a trois générations.
Parce que la télévision est en panne.
Là voilà, la télévision est en panne, donc on est obligé de se parler, et là toutes les tensions s'expriment et s'exacerbent. Et on voit que ça tire dans tous les sens. Le film a un noir et blanc assez clinique, une prise directe sur cette famille, et puis surtout il y a un espèce de feu d'artifice verbal avec plein de répliques qui sont devenues cultes, et voilà, comme souvent dans la nouvelle vague tchèque, une satire qui est très axée sur la réalité psychologique.
La famille Homolka de Jaroslav Papouchek, c'est à voir en salle et en version restaurée, tout comme The Grandmaster de Wong Kar-wai dans sa version chinoise inédite. Et puis pour celles et ceux qui se demanderaient ce que le cinéaste hongkongais mais shanghaïen de naissance a fait depuis 2013 et ce dernier film, eh bien sa série Blossoms Shanghai sur le boom économique des années 90 est disponible sur la plateforme Mubi. 30 épisodes, tous réalisés par lui dans sa ville d'origine et en dialecte local, qui tiennent du soap-opéra comme de la réflexion mélancolique sur le temps qui passe, avec force au reflet, sur cadrage ralenti et musique omniprésente. On est bien chez Wong Kar-wai. Ceci annoncé, il est temps, dans une chambre crépusculée autour d'un verre de saké, de se remémorer entre anciens amants une toute première nuit. Ils se sont rencontrés en Indochine quand elle était sous occupation nippone et y ont vécu une liaison torride. Quand ils se retrouvent au Japon après la défaite, leur retrouvaille ravive certes les braises de cette ancienne passion, mais l'homme, Tomioka, est marié, mais il n'entend pas honorer sa promesse d'épouser la dactylographe sans le sou qu'est Yukiko. Ces nuages flottants de Mikio Naruse, considérés sur l'archipel comme un des trois plus grands films japonais du XXe siècle, avec les 7 samouraïs de Kurosawa et le voyage à Tokyo d'Ozu, ce qui n'a pas empêché le film de rester invisible en France pendant 30 ans jusqu'à sa ressortie en octobre dernier et à présent son édition Blu-ray. Et malgré son titre éthéré, Nuages flottants, c'est un film d'une dureté et d'une noirceur totale, Mathieu Macheret.
Ben oui, c'est un film d'une grande et sublime tristesse, même cette tristesse qui durera toujours, selon le mot célèbre de Van Gogh cité par Maurice Pialat dans À nos amours. Ou plutôt, si on veut nuancer, cette amertume anticipée ou rétroactive, ce petit air flottant qui est toujours déjà là, jamais complètement dissipé, et qui caractérise parfaitement le cinéma de Mikio Naruse. Naruse, l'un des grands piliers du cinéma japonais, parmi ceux que vous venez de citer, Antoine, qui a commencé dans le muet, c'est toujours significatif, et par des comédies, comme Ozu, et puis qui a connu une reconnaissance plus tardive en Occident. Si on cherche à le catégoriser, ce film, Nuages flottants, on parlera d'abord de mélodrame, de ce cruel et flamboyant dont le cinéma japonais des années 50 a été si prodigue. Mais à bien y regarder, l'originalité du film, elle est ailleurs. Elle ne doit rien, ou si peu, aux structures du genre. C'est une histoire d'amour impossible, certes, mais d'une profonde étrangeté, obsédante, lancinante, que nous raconte Naruse dans un style d'une splendeur absolue, arrivée à parfaite maturité. Une histoire d'amour désynchronisée, déréglée, et toujours à contre-temps. Le couple dont il est question n'aura presque pas d'existence officielle. C'est un couple d'arrière-cour, d'auberges dérobées, de masures misérables, de pioles obscures, d'entrevues dérobées et de non-dits envahissants. Tout un inframonde qui est celui de la clandestinité. Espace instable et paradoxal que celui de cette relation, car pour rester ensemble, il faut se séparer encore et encore. Et s'il y avait une devise à inscrire au fronton de cette curieuse relation amoureuse, ce serait « ni avec toi, ni sans toi ». Son régime, c'est celui du ressassement. Parce que dans cette histoire amoureuse, qui est un chassé-croisé douloureux, un motif insiste tout du long qui trace le fil rouge de la relation. C'est la marche. Ce couple instable qui ne peut tenir en place, Yukiko et Tomioka, décrivent de longues marches dans le Tokyo d'après-guerre entre les foyers décentrés de leur amour. Il n'y a que quand on marche ensemble qu'on ressemble à un couple, lui suggère à un moment Yukiko lors de ses errances qui ne vont pas toujours vers une destination. À chaque fois, les amants épuisent l'un envers l'autre la part de remords, de regrets, d'impossibilité qui les unit. Mais évidemment, derrière ces marches récurrentes, c'est le Japon de la défaite qu'on aperçoit. Celui aussi de la reconstruction qui se dessine en arrière-plan dans une perspective longue de 10 ans depuis la guerre jusqu'à la fin du film qui rejoint le présent de 1955. C'est un long travelling historique qui est constitué de tous les travellings magnifiques et lancinants que déroule le film. Et ce que le couple traverse, c'est évidemment ce que cette société blessée a vécu, chômage de masse, pénurie, blessures à penser, indigence matérielle, privation de toutes sortes. L'ancienne société impériale ayant volé en éclats, les titres et fonctions d'antan sont détruits. Tous doivent se réinventer et prendre en route le train du nouveau capitalisme. C'est ce que décrit Naruse. Il y a d'ailleurs le personnage du beau-frère de Yukiko, un abuseur notoire, qui s'enrichit en s'inventant gourou d'une nouvelle secte, par exemple. Itinérant, sinueux, le film traverse un nombre de décors impressionnants, depuis le Tokyo en ruine, du début jusqu'aux confins du pays, sur une petite île perdue et pluvieuse. Il y a évidemment une raison historique à la malédiction du couple. Yukiko et Tomioka se sont rencontrés lors de l'occupation japonaise en Indochine qui est retracée le temps d'un flashback et ce sont les seules scènes ensoleillées, soleil trompeur, le rapprochement advenant dans un jardin de nature luxuriant, une sorte d'Éden presque irréel. C'est le temps de l'illusion, de l'aveuglement, de l'occupation illégitime, comme le couple sera illégitime lui aussi, origine fallacieuse et mensongère de l'amour, instant suspendu qu'il ne retrouve jamais. La défaite s'inscrit donc partout lors de leur retrouvaille à Tokyo et ce sera la raison secrète de leur relation, l'arythmie cardiaque inscrite profondément au cœur de leur amour. Le film, il est porté par un duo d'acteurs éblouissants. D'un côté, la formidable Hideko Takamine, qui est l'une des plus grandes stars japonaises de l'âge d'or, visage rond comme un quartier de lune et pourtant si douloureux, qui s'ouvre et se ferme en un clin d'œil, s'illumine puis replonge dans les ténèbres et sur le masque duquel le film se termine dans un sentiment d'ambiguïté et d'amertume indémêlable. Et puis de l'autre, on a le non moins admirable Masayuki Mori, acteur âpre, rugueux, pour un rôle tout sauf évident. En effet, l'un des paradoxes du film, c'est que le personnage masculin est particulièrement rude, goujat. Et on se demande d'ailleurs pourquoi Yukiko s'y attache autant. C'est parfois presque incompréhensible. Et en même temps, ça n'est pas incompréhensible, parce que c'est évidemment une façon de suggérer en filigrane, par-delà la censure, quelque chose de beaucoup plus concret, à savoir le nœud sexuel qui tient les deux amants ensemble et parfois presque malgré eux. Yukiko incarne à ce titre un certain destin sexuel des femmes dans l'après-guerre. Le viol du beau-frère, la survie par la prostitution, notamment auprès des GI américains qui occupent le pays, la grossesse non désirée, l'avortement, tout cela sera évoqué. Toute chose suggérée avec une pudeur impressionniste qui ne contredit pas les exigences du réalisme par la mise en scène mouchetée de Naruse. Hideo Takamine rend magnifiquement sensible ce destin chevillé au corps des femmes. Naruse donne de l'amour une définition profondément asymétrique, c'est un pas de deux, et même une guerre de prestige qui se tient entre les deux personnages, se retrouvant chaque fois d'un côté différent de la barrière, alternativement pauvre ou riche, puissant ou malheureux, en mesure d'aider l'autre ou de le tromper. Hein, ce prestige se renverse à chaque fois. L'amour ici, c'est toujours ce qui insiste, ce à quoi il faut bien se rendre après avoir essayé tout le reste.
Merci Mathieu Macheret. Nuage flottant de Mikio Naruse, c'est édité en vidéo chez Carlotta Film. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson, Martin Troadec et Guy Rec Corbin. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Juliette Marcaillou et réalisée par Anne-Laure Chanel.